Bonjour et bienvenue à Les Voix de service quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce mardi 3 octobre 2017. Alors, si le 3 fait le mois, comme le dit l'adage, nous aurons un mois d'octobre magnifique parce que cette journée est vraiment belle. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors, allez-y donc avec les éphémérides.
3 octobre, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de l'architecture et ou, selon ce que vous souhaitez souligner, la journée mondiale de l'habitat.
Ah.
Donc, les deux sont tout de même assez complémentaires, quoique des fois sous des angles différents. Et chose que je ne fais pas souvent, je vais commencer cette chronique avec une belle pensée qui est tirée de Confucius, du recueil Entretien du maître avec ses disciples. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine.
Oui.
Réfléchir sans étudier est dangereux. Ça me parlait ce matin. Donc, je plonge tout de suite dans l'histoire. 3 octobre 1906, on reste quand même dans le siècle dernier. Les lettres SOS, Save Our Souls, deviennent le signal officiel de détresse à la place de CDQ. CDQ qui voulait dire « Come damn quick ». Donc, grouillez-vous, pour traduire ça de façon polie. 3 octobre 1918, via la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche proposent aux États-Unis un armistice, lequel sera contenu le 11 novembre. 1929, naissance du royaume de la Yougoslavie. 1940, premier statut des Juifs en France. 3 octobre 1950, Air France inaugure sa liaison Paris-Montréal, et à l'époque, cette liaison pouvait transporter 34 passagers.
C'est beaucoup?
C'est énorme! Les Airbus peuvent aller se rhabiller. 1952, la première bombe atomique britannique éclate dans les îles de Montebello au nord-ouest de l'Australie. 1977, en Inde, l'ancienne première ministre Indira Gandhi est arrêtée pour corruption. Une fois libérée, elle sera réélue en janvier 1980. Toujours un 3 octobre, cette fois à Québec, en 1978, les caméras de télévision captent pour la première fois les débats de l'Assemblée nationale. 1995, un événement qui a fait beaucoup jaser à l'époque et que plusieurs sites rapportent aujourd'hui après un long procès à Los Angeles, O.J. Simpson est acquitté par un jury des meurtres de son de Nicole Brown, donc qui fut sa femme, et de l'ami de celle-ci, Ronald Goldman, meurtre qui avait été commis en juin 1994, un peu plus d'un an plus tard, O.J. Simpson est acquitté de ses meurtres, et O.J. Simpson, qui aussi a défrayé la manchette récemment, car il a été libéré d'une autre peine pour laquelle il purgeait, je ne me souviens plus combien d'années, mais bref, il a été emprisonné et il a été libéré dans les derniers jours. 3 octobre 2007, ça m'a fait sourire et sourciller à la fois. La Corée du Nord accepte de fournir une liste complète de ses programmes nucléaires et de démanteler les installations de son principal complexe nucléaire.
Il y a 10 ans aujourd'hui,
donc on peut voir que la Corée du Nord a tenu parole et puis ne fait plus partie de la course aux armes nucléaires.
Dit-il avec sarcasme.
Ah, tout à fait, tout à fait. 2013, c'est un autre événement dont on se rappelle fort bien. Il y a 4 ans aujourd'hui, 3 octobre, plus de 130 migrants africains périssent dans un naufrage aux abords de l'île italienne de Lampedusa. Et 2015, un autre événement qui a marqué ici le Québec, le président du Comité olympique canadien, Marcel Aubu, démissionne à la suite de plaintes de harcèlement sexuel déposées contre lui. Naissance pour ce 3 octobre, et on terminera là-dessus, deux noms liés à la musique. Camille Saint-Saëns, compositeur notamment de Samson et Dalila, qui est né le 3 octobre 1835. Et le chanteur rock qui nous a fait twister et nous a fait twister encore, Chubby Checkers, né en 1941.
Oui, et Tom Petty qui est mort, je ne sais pas si c'est le 2 ou le 3 octobre, mais il est mort officiellement. Là, on l'a annoncé ce matin parce qu'hier, on l'avait annoncé un peu trop vite.
Mais... il est mort, il est revenu à la vie et puis finalement, il est reparti.
66 ans, c'est bien triste. Merci Jean-Sébastien. À la une de la presse aujourd'hui, tuerie à Las Vegas, carnage, au moins 59 morts et 527 blessés. Qui était cet Américain de 64 ans armé jusqu'aux dents qui a ouvert le feu sur la foule réunie pour un festival de musique country à Las Vegas? Retour sur la tuerie la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Le massacre en cinq lieux. Stephen Paddock, un retraité sans histoire qui aimait le jeu. Stephen Paddock, c'est le nom du meurtrier. La chronique de Rima El-Khoury, Le pire est ailleurs. Envoyé spécial, Richard Etu, qui écrit un texte intitulé « Horreur sur le Strip ». Près de 24 heures après la pire tuerie de l'histoire des États-Unis, le Strip était quasiment désert dans le bout de l'hôtel Mandalay Bay et Rob Morgan cherchait un endroit où déposer les fleurs qu'il avait achetées pour honorer la mémoire de son neveu Eric Silva, tué d'une balle à la tête à l'âge de 22 ans. Eric Silva travaillait comme gardien de sécurité dimanche soir lors du dernier concert d'un festival de musique country de trois jours appelé Route 91 Harvest. Lui et 58 autres personnes ont été tuées par Stephen Paddock, un retraité fortuné qui aimait le jeu. Cet Américain blanc, âgé de 64 ans, s'était aussi doté d'un arsenal de guerre pour mettre à exécution un plan diabolique que personne encore ne peut expliquer. Plus de 500 personnes ont également été blessées dans la tuerie qui a tiré Sean Seeley de son lit dans la chambre qu'il occupe au Mandalay Bay, l'hôtel où le tireur était embusqué. Au début, je pensais qu'un hélicoptère de touristes s'était approché de l'hôtel, a-t-il raconté en regagnant son hôtel à pied, hier soir. Puis j'ai ouvert les rideaux et j'ai vu les spectateurs du festival courir dans tous les sens. J'ai compris que ce que j'entendais, c'était des tirs. Le Nevada ne compte qu'un seul hôpital possédant un centre de traumatologie de catégorie 1 qui offre tous les traitements complets, l'University Medical Center à Las Vegas. 8 chirurgiens spécialistes en traumatologie ont été appelés en renfort dimanche soir, selon le Las Vegas Review Journal. « C'est comme si nous étions dans une zone de guerre », a confié l'un d'eux, le Dr. Jay Coates, au quotidien local. Tous les lits du centre de traumatologie étaient occupés. Les gens attendaient dans les corridors afin d'être soignés. En matinée, hier, le gouverneur du Nevada, le républicain Brian Sandoval, a fait un appel aux dons de sang pour aider les survivants du massacre. Appel qui a été entendu toute la journée hier. Les gens faisaient la file pour donner du sang à Las Vegas. Toujours en ce qui concerne la tuerie à Las Vegas, cette fois le tueur Stephen Paddock s'est suicidé dans sa chambre après avoir tiré sur les policiers à travers la porte. Ceux-ci ont découvert sur les lieux 23 armes à feu, dont des fusils d'assaut AR-15, armes de prédilection des tueurs de masse, et des centaines de balles. Deux des fusils étaient munis de lunettes de tir et montés sur des trépieds devant les fenêtres fracassées. La police a également découvert dans la voiture du tireur du nitrate d'ammonium, un composant chimique utilisé dans la fabrication de bombes. Qualifié de loup solitaire par le shérif du comté de Clark, le tireur semblait avoir songé à plus d'une attaque. Ses motifs demeurent cependant inconnus. Tuerie à Las Vegas, la chronique de Rima El-Khoury. Le pire est ailleurs. Hier, Orlando. Avant-hier, Newton. Aujourd'hui, Las Vegas. On dit que c'est la pire tuerie de masse de l'histoire américaine. Mais y a-t-il vraiment des tueries de masse qui soient moins effroyables que d'autres? Newton et ses enfants innocents tombés sous les balles d'un tireur un jour d'école, était-ce moins grave dans l'échelle de l'horreur? Et Orlando et Virginia Tech, et Columbine, et insérer ici le nom d'une tuerie oubliée après laquelle on a dit plus jamais. On en parle comme des statistiques anesthésiées par des décennies d'horreur. On compile les données, on évoque un nouveau record, on fait des palmarès. On montre en boucle les détails les plus terrifiants. Les gens prient, pleurent, se demandent pourquoi. Et puis demain, on passera à autre chose, en attendant la prochaine pire tuerie de l'histoire américaine. Le pire est ailleurs. Il est dans cette déshumanisation de la tragédie réduite à des statistiques. Il est dans l'inertie qui suit le deuil et les plus jamais. Il est dans le cynisme mortifère du lobby des armes à feu américains qui plaide qu'acheter des armes est la meilleure façon d'être libre et de se protéger. Il est dans le silence complice de Donald Trump. On sait pourtant que plus le taux de possession d'armes à feu est élevé dans un État, plus le taux d'homicide par arme à feu l'est aussi. On sait pourtant que pour chaque homicide par arme à feu où la légitime défense peut être plaidée, on compte 34 meurtres que rien ne peut justifier. On sait qu'un enfant américain court 14 fois plus de risques de mourir sous les balles que les enfants des autres pays développés, selon le Harvard Injury Control Research Center. Que faudrait-il donc pour que ça cesse? Bon an, mal an, plus de 31 500 personnes meurent à cause d'une arme à feu aux États-Unis. Le chiffre inclut les suicides, les accidents et les homicides. On compte plus d'Américains morts ainsi sous les balles depuis 1968 que d'Américains tombés à la guerre depuis 1775, estimait l'an dernier un historien dans le Washington Post. Plus d'Américains morts en paix chez eux à cause des armes à feu que d'Américains morts au cours de toutes les guerres de leur histoire réunies, guerre de sécession, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre du Vietnam, guerre en Afghanistan, etc. Plus de 31 500 morts par an à cause de la folie des armes aux États-Unis. C'est comme si une petite ville était rayée de la carte tous les 31 décembre. L'équivalent d'une ville comme Val-d'Or ou Sainte-Julie qui disparaît en une année seulement. Et l'année suivante, le carnage recommence. Comment arrêter cette folie? Même si des mesures plus strictes de contrôle des armes à feu ne régleraient pas tout, nous disposons d'assez de données pour savoir qu'elles permettraient de sauver des milliers de vies. Hier, je voyais ce musicien country texan qui a eu la peur de sa vie à Las Vegas raconter comment la tuerie lui avait ouvert les yeux. Toute ma vie, j'ai été un partisan du deuxième amendement. Jusqu'à hier soir, je peine à exprimer à quel point j'ai eu tort, a écrit Caleb Keeter sur son fil Twitter, en exigeant de toute urgence des mesures de contrôle des armes à feu. Que ce genre d'appel à la raison se fasse entendre aujourd'hui dans le milieu de la musique country, où la National Rifle Association, NRA, a des affinités et où la culture des armes à feu est très forte, a quelque chose d'encourageant. En même temps, on se dit que si la mort de 20 enfants dans une école primaire en 2012 n'a pas suffi à arrêter la folie des armes à feu, la prise de conscience post-Las Vegas risque d'être de courte durée. Avec un président Trump appuyé par la NRA durant sa campagne, qui n'a pas cru bon dire un seul mot hier sur le contrôle des armes à feu dans sa déclaration post-fusillade, l'optimisme est pour le moins risqué. Les électeurs de Louis Hébert ont administré une gifle monumentale au gouvernement Couillard hier soir en élisant la candidate de la coalition Avenir Québec, la CAQ, Geneviève Guilbeault. Ils ont du coup fait basculer un siège névralgique de la région de Québec aux mains de l'opposition. Pour le chef de la CAQ, l'élection de cette nouvelle étoile de la politique confirme le mécontentement des Québécois à l'égard du gouvernement libéral à un an des élections générales. Les électeurs envoient un message cinglant à Philippe Couillard, a-t-il déclaré. Et en même temps, ils ont envoyé un message à tout le Québec. On n'a pas eu le résultat qu'on aurait souhaité, mais il y aura d'autres soirs de victoire, d'autres matins heureux où ensemble, on va faire gagner le Québec, dit Philippe Couillard, premier ministre du Québec. Résultat de l'élection partielle, Geneviève Guilbeault, CAQ, 51%, Ihsane Elguernati, 18,7%, Normand Beauregard, PQ, 16,3%, Guillaume Boivin, Québec solidaire, 5,2%. Majorité, 7 658 votes, participation, 52,4%. Moins de 24 heures après sa victoire retentissante au premier tour de scrutin, le nouveau chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, tend une perche aux nationalistes québécois en reconnaissant le droit de l'Assemblée nationale de légiférer sur la délicate question de la neutralité religieuse de l'État. Alors qu'il ne cachait pas son opposition à une telle mesure durant la course à la direction du parti, M. Singh a affirmé hier à Ottawa que le gouvernement fédéral ne peut empêcher l'Assemblée nationale de se prononcer sur cette question. Il reviendra toutefois aux tribunaux de déterminer en temps et lieu si le projet de loi sur la neutralité religieuse respecte la Charte des droits et libertés, si des groupes décident d'en contester la constitutionnalité. À la une du Devoir de ce mardi 3 octobre, l'Amérique dévastée, au moins 59 personnes, dont deux Canadiens, ont perdu la vie à Las Vegas dans la pire tuerie de masse à survenir aux États-Unis. Élection partielle, la CAQ arrache Louis Hébert au PLQ. Livre Orhan Pamuk, Istanbul dans la peau, la situation dans son pays a beau l'attrister, l'écrivain ne saurait le quitter. Le nouveau chef du NPD, Jagmeet Singh, aurait-il changé d'idée au sujet du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse dans les services publics au Québec? Catalogne, l'Union européenne sort de sa réserve et appelle au calme. Julie Payette se pose à Rideau Hall. Les États-Unis ont vécu dimanche soir la pire tuerie de leur histoire moderne, avec au moins 59 morts et 527 blessés au moment d'écrire ces lignes. Le bilan de la fusillade de Las Vegas dépasse celui de l'attentat perpétré dans une discothèque d'Orlando qui avait fait 49 morts en juin 2016. Une infirmière, un pêcheur, une enseignante, l'identité de quelques victimes a été divulguée lundi en soirée. Parmi elles, on compte deux Canadiens, Jessica Klimchuk, une Albertaine mère de 4 enfants, et Jordan McIldon, un jeune homme de 23 ans originaire de la Colombie-Britannique. Le groupe armé État islamique a revendiqué la tuerie, disant que l'homme s'était converti à l'islam et qu'il en était un soldat. Washington a rapidement écarté cette piste. Le FBI a déclaré n'avoir établi aucun lien à ce stade avec un groupe terroriste international. Le shérif de Las Vegas, Joseph Lombardo, a pour sa part qualifié le tueur de « loup solitaire ». Après le carnage, le tueur, un Américain de 64 ans, s'est enlevé la vie dans sa chambre d'hôtel. 24 heures plus tard, on ne connaissait toujours pas ses motivations. La coalition Avenir Québec a gagné son pari. Sa candidate Geneviève Guilbeault a remporté lundi soir l'élection partielle dans Louis-Hébert, mettant un terme au règne libéral de 14 ans dans cette circonscription. La femme de 34 ans, ex-porte-parole du bureau du coroner, succède au député libéral Sam Ahmad, qui a annoncé son retrait de la vie politique le 27 avril. « Je me joins à l'équipe du changement, tellement souhaitée ici dans Louis-Hébert et que nous aurons le bonheur d'incarner », a déclaré la nouvelle élue caquiste après avoir longuement remercié son équipe et sa famille. « Je m'engage à vous représenter dignement et dans la plus grande intégrité », a-t-elle dit à ses électeurs. Le chef de la CAQ, François Legault, a félicité la nouvelle étoile de la politique, celle qui a fait tomber une forteresse libérale. Le coroner qui s'est penché sur le décès de Christiane Vanney, attaquée par un chien à Montréal en juin 2016, estime que le gouvernement du Québec fait fausse route en interdisant les chiens de type pitbull dans son projet de loi déposé en avril. Selon le Dr Ethan Lichblow, il n'a pas été démontré que cette stratégie était efficace pour réduire le nombre ou la gravité des morsures de chiens. Dans son rapport rendu public lundi, le coroner recommande au gouvernement de clarifier la définition de chien dangereux dans sa loi et de créer un registre québécois afin de centraliser les données sur les signalements de blessures infligées par les chiens. Le chien qui s'en est pris à Christiane Vanney le 8 juin 2016 était un American Staffordshire Terrier à 87,5 selon le résultat d'analyse d'ADN. Le coroner Lichblow indique cependant être incapable d'identifier formellement le chien comme étant un pitbull. Il décrit toutefois l'animal comme un chien agressif et violent qui avait attaqué d'autres personnes auparavant. Le conducteur de locomotive Thomas Harding sait qu'il est en partie responsable du déraillement de train meurtrier survenu en juillet 2013 à Lac-Mégantic, mais il respectait les procédures et la tragédie découle d'une politique d'entreprise défaillante, a affirmé son avocat lundi, au premier jour du procès. L'avocat Thomas Walsh a soutenu devant les journalistes que la conscience de son rôle dans la tragédie pèse beaucoup plus lourdement sur les épaules de son client que le procès. Maître Walsh a affirmé que la cause revient à déterminer si la tragédie découle d'une erreur humaine ou d'une négligence criminelle. Maître Walsh a affirmé que M. Harding témoignera probablement pour sa défense. Le procès criminel de M. Harding et de deux autres anciens employés d'une entreprise ferroviaire accusés à la suite du déraillement s'est ouvert lundi à Sherbrooke. réconciliation autochtone, changement climatique et diversité culturelle, c'est en reprenant les thèmes chers aux libéraux de Justin Trudeau et que Julie Payette a entamé son règne de gouverneur général. Il y a une photo où Julie Payette est en train de s'adresser aux invités sous le regard de son fils, Laurier Payette Flynn, son premier conseiller, a-t-elle dit. Son rôle étant avant tout protocolaire, Julie Payette n'a pas étoffé les thèmes du mandat qu'elle espère mener comme l'avaient fait ses prédécesseurs. La diversité, l'accès à l'éducation, le sport et l'importance d'une science fondée sur des données probantes ont été évoqués au passage. Mais c'est surtout cet appel à la coopération qu'a martelé la 29e gouverneure générale. La main doit, cela dit, aussi être tendue aux peuples autochtones, a-t-elle insisté en prononçant quelques mots en algonquin. Les premiers ministres des provinces et des territoires se rendront à Ottawa mardi pour rencontrer le premier ministre Justin Trudeau. Ils auront alors l'occasion de se prononcer sur la réforme fiscale que propose le gouvernement libéral et qui soulève la controverse. Le ministre des Finances Bill Morneau compte profiter de cette rencontre pour présenter son plan pour éliminer la création de petites entreprises permettant à des Canadiens fortunés d'économiser de l'impôt. Et je termine avec la caricature du jour. C'est une caricature signée Garnotte. D'un côté, on voit Jagmeet Singh, le nouveau chef du NPD, et de l'autre, Justin Trudeau. Et le titre de cette caricature, « À chacun son turban ». Alors, Jagmeet Singh en porte un tout jaune et Justin Trudeau en porte un tout rouge, mais le turban, il ne le porte pas sur la tête, mais autour de sa bouche. Et Justin Trudeau est en train de lire un journal qui titre « Ottawa muet sur la situation en Catalogne ». J'avais dit que je terminais, mais une petite dernière. Sears Canada a annoncé lundi qu'elle demandera l'approbation en Cour supérieure de justice de l'Ontario de la vente de Corbeil à Amcam électroménager. La transaction, dont la valeur n'a pas été dévoilée, entraînerait des mises à pied pouvant aller jusqu'à 10 % ou 30 personnes d'un groupe comprenant les employés des magasins détenus par la société, des entrepôts et du siège social de Montréal. Sears Canada s'est vu accorder une ordonnance initiale et la protection en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies le 22 juin 2017.
I'm
La pièce Saint-Laurent, c'est à cœur de pirate.
À la une du Journal de Montréal, évidemment, on parle de cette tragédie à Las Vegas. 59 morts, 527 blessés. Las Vegas, 13 pages. Ils échappent aux tireurs fous. Des corps par terre, du sang partout. C'est une citation du couple Marin-Nollet. Des proches servaient de boucliers. De nombreux héros se sont jetés sur leurs proches pour les protéger des salves de balles qui sifflaient autour d'eux pendant le massacre de Las Vegas, parfois au péril de leur propre vie. Dans le chaos semé par les coups de feu tirés au milieu d'une foule de 22 000 personnes, des conjoints, des parents et des amis n'ont pas hésité à servir de boucliers pour sauver ceux qu'ils aiment des balles meurtrières. « Il m'a sauvé la vie, mais il a perdu la sienne », a confié dans une déclaration l'épouse d'un courageux infirmier américain âgé de 29 ans qui est mort en voulant la protéger. Heather Gulish Milton et son mari Sonny Milton assistaient au concert de musique country du festival Route 91 Harvest lorsque le tireur a ouvert le feu sur les spectateurs depuis sa chambre d'hôtel. « Il m'a attrapé et s'est mis à courir, puis je l'ai senti se faire tirer dans le dos », a-t-elle expliqué à une chaîne de télévision du Tennessee où ils travaillaient. Ils étaient mariés depuis un peu plus d'un an. « Je n'arrive pas encore à le croire, je suis désespérée. » « C'était l'homme le plus gentil que j'avais rencontré », a poursuivi la chirurgienne américaine, incapable d'en dire davantage. D'autres ont eu plus de chance en tentant de sauver ceux qu'ils aiment du carnage qui se déroulait sous leurs yeux. « C'était fou, je me suis couchée sur mes enfants. Ils ont 20 ans et moi 53. » J'ai eu une bonne vie, a raconté à Reuters Mike McGarry, pour qui la vie de ses enfants était bien plus précieuse à ses yeux que la sienne. Un couple de l'Abitibi s'est réfugié dans un hangar d'avion pour échapper aux balles du tireur de Las Vegas. C'est vraiment difficile de mettre des mots sur ce qui nous est arrivé. On est déboussolé, lance Rachel Massé qui a survécu à la fusillade. Véritables amateurs de country, Madame Massé et son conjoint Sylvain Fortin étaient dans la section VIP du concert de Jason Aldean avec un autre couple d'amis. Ils ont décidé de s'avancer près de la scène pour prendre des photos avant que les premiers tirs ne se fassent entendre. La première fois, on pensait que c'était des pétards. Il y avait un homme de l'armée à côté de nous qui semblait être en position de défense et il n'y avait pas d'odeur de feu d'artifice. Après la troisième détonation, on s'est mis à courir, relate la femme de 38 ans. Le couple a été parmi les premiers à s'enfuir, selon Mme Massé. Son conjoint et elle ont couru de toutes leurs forces sur un peu plus d'un kilomètre pour se réfugier dans un hangar d'avion de l'aéroport McCarran, situé tout près. On jetait les clôtures par terre pour que les gens puissent passer. On était une centaine à l'intérieur. Il y avait des gens blessés, un qui avait la tête en sang, d'autres qui s'étaient foulés la cheville en courant. Une femme a même été frappée par une automobile dans le mouvement de panique, se souvient-elle. Des policiers sont finalement venus les chercher et les ont amenés dans un collège. Après avoir discuté avec les autorités, ils ont réussi à trouver un endroit pour se reposer. Uber leur a aussi offert un transport gratuit vers leur hôtel. Quelques heures après le massacre de Las Vegas, le président Donald Trump n'a pas dit un seul mot sur la question du contrôle des armes à feu, appelant plutôt à l'unité du pays dans une déclaration faite hier à la Maison-Blanche. « Notre unité ne peut pas être brisée par le mal, nos liens ne peuvent pas être défaits par la violence, et bien que nous ressentions de la colère face à l'assassinat insensé de nos compatriotes, c'est l'amour qui nous définit aujourd'hui », a-t-il déclaré dans une allocution au ton grave, dénonçant un acte qui représente le mal absolu. La Maison-Blanche a toutefois estimé hier qu'il serait prématuré de rouvrir le débat sur l'encadrement de la vente d'armes à feu aux États-Unis. Bruxelles implore l'Espagne de mettre fin à la violence. Au lendemain du référendum marqué par des violences en Catalogne, le sommet de l'Union européenne a lancé hier de premiers appels pour pousser Madrid au dialogue et à éviter désormais le recours à la force. La Commission européenne et le président du Conseil européen, l'instance regroupant les dirigeants des 28, Donald Tusk, sont prudemment sortis de leur réserve après que les images de policiers frappant des manifestants eurent choqué au-delà des frontières espagnoles. Au regard de la Constitution espagnole, le vote d'hier, dimanche, en Catalogne, n'était pas légal, a d'abord rappelé devant la presse le porte-parole de la Commission, Margaritis Chinas, réitérant la position habituelle de Bruxelles en ligne avec celle de Madrid. Mais après ce préalable, la Commission est allée plus loin qu'elle ne se l'était autorisée ces derniers jours. « Nous appelons tous les acteurs pertinents à passer rapidement de la confrontation au dialogue », a déclaré M. Chinas, ajoutant que la violence ne peut jamais être un instrument en politique. Concernant son appel au dialogue, la Commission a assuré faire confiance au leadership de Mariano Rajoy pour mener ce processus en plein respect de la Constitution espagnole. Lors d'un entretien au téléphone, le président français Emmanuel Macron a, lui, réaffirmé au chef du gouvernement espagnol son attachement à l'unité constitutionnelle de l'Espagne et le fait que Paris n'avait qu'un seul interlocuteur en la personne de M. Rajoy, selon l'Élysée, qui n'a pas mentionné la question des violences. Un restaurateur de la rue Prince-Arthur-Est à Montréal a installé un panneau de demandant de faire attention aux serveurs. Depuis la fin du printemps, les terrasses sont situées au centre de la rue piétonne, ce qui force les serveurs comme Christos Lagacé du restaurant Casa Grecque à se frayer un passage dans la foule entre le restaurant et ses tables. Deux collègues de M. Lagacé ont été impliqués dans des collisions au cours de l'été. Alors, on voit bien le panneau indicateur en jaune et noir qui essaie de sensibiliser les gens au passage des serveurs. La famille d'une Montréalaise décédée l'an dernier lors de l'attaque d'un chien estime que le rapport du coroner protège les pitbulls. Le dépôt du rapport sur la mort de Christiane Vanney hier matin était très attendu car ce décès est à l'origine du règlement anti-pitbull que tente d'imposer Montréal et pourrait influencer le projet de loi 128 encadrant les chiens dangereux. Mais pour la famille de la victime, c'est la déception. Ce rapport est ridicule, ce n'est pas assez sévère. Il fallait recommander d'interdire les pitbulls, estime le frère de la victime, Serge Vanney. Sa sœur a été retrouvée morte dans son jardin de Pointe-aux-Trembles. Selon le rapport, la femme de 55 ans a été tuée par le chien du fils de son voisin. L'animal de 33,5 kg, 73 livres, laissé sans surveillance et sans muselière, s'est introduit chez elle par un trou dans la clôture. Dans son rapport, le coroner, le Dr Ethan Lichblow, recommande notamment la création d'un registre québécois des chiens qui ont causé des blessures ou la stérilisation de tous les chiens, quelle que soit la race. « C'est choquant de lire que la santé de ma sœur est une cause de son décès », déplore Lise Vanney. Le coroner écrit qu'elle est morte parce qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais elle était chez elle, dans sa cour. L'animateur et chroniqueur de Québec, Martin Pouliot, est demeuré de glace lorsqu'il a été amené hier devant le juge pour y être formellement accusé. Menotté, Pouliot a fait son entrée dans le box des accusés sans afficher d'émotion. L'homme de 46 ans avait plutôt l'air de vouloir en finir au plus vite, répondant de façon brève et cassante au président du tribunal. Officiellement, il a été accusé de conduite avec les facultés affaiblies, de conduite avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang et de conduite dangereuse ayant causé des lésions à une femme de 37 ans. Pour recouvrer sa liberté, il a dû déposer la somme de 1 000 $ au greffe du tribunal et son frère jumeau s'est engagé sous signature pour un montant de 5 000 $. Il devra aussi respecter un couvre-feu de 22h à 6h et déposer son permis de conduire. Il sera de retour devant le tribunal le 17 novembre. Quant aux liens qui l'unissaient à Boulevard et LCN, ils ont été rompus sur le champ. métro gratuit des week-ends. Le maire reste évasif sur le coût de cette promesse électorale. Denis Coderre promet d'offrir un accès gratuit au métro et aux autobus, dis-je bien, de la Société de transport de Montréal pendant 4 fins de semaine au courant de l'année. Ces fins de semaine concorderaient avec 4 grands événements qui sont pour le moment inconnus. C'est l'une des rares nouvelles propositions dans la plateforme de l'équipe de Denis Coderre présentée hier après-midi.
Tom Petty qui nous a quittés, c'était la pièce I Won't Back Down.
La docteure répond : et si vous deviez faire une RCR? Vous vous promenez dans un parc pour contempler la nature par une belle journée d'automne. Un individu qui faisait la même chose que vous s'écroule au sol. Vous êtes le seul témoin de la scène. Vous attendez qu'un super-héros arrive ou qu'un médecin sorte d'un buisson, mais personne ne vient. Vous tentez de vous rappeler votre dernier cours de réanimation. Vous secouez gentiment votre patient qui, heureusement, s'éveille aussitôt. Phew! Votre carrière médicale prend fin. L'ambulance arrive pour s'occuper du reste. Vous vous posez cependant une question. Êtes-vous prêt à faire de la réanimation cardio-respiratoire, RCR? Que faire si vous êtes témoin d'un véritable arrêt cardiaque? Guenièvre Thérien, médecin omnipraticienne, qui écrit le texte. Malheureusement, les arrêts cardiaques surviennent. Une minorité de gens y survivront, pour en subir un deuxième un jour, la mort, quoi. Un facteur déterminant pour la survie est le temps écoulé entre l'arrêt cardiaque et le début des manœuvres de réanimation, ce moment où vous branlez dans le manche, entre parenthèses, le cœur a arrêté de battre efficacement, le sang ne circule plus. Chaque seconde, des cellules meurent, incluant les précieux neurones. Il faut agir vite. Le hic, c'est que beaucoup de gens hésitent à se lancer dans la réanimation. Pourquoi? Plusieurs se demandent si la personne devant eux est vraiment en arrêt cardiaque. D'autres ne se sentent pas assez expérimentés pour se lancer. D'abord, ayez confiance. Vous êtes capable de faire de la réanimation de base. Il faut d'abord déterminer si la personne est bel et bien en arrêt cardiaque. Si oui, elle devrait être inconsciente. Typiquement, elle s'est effondrée et ne répond pas au toucher. Entre parenthèses, ne faites pas de massage cardiaque à votre collègue parce qu'il s'est endormi dans une réunion un peu trop longue. Vous pouvez confirmer l'absence de pouls si vous êtes un expert, mais sous le stress, vous sentirez toutes sortes de choses, incluant votre propre pouls battant très fort. Puisque le temps compte, il n'est pas absolument nécessaire de confirmer l'absence de pouls, et dans le doute, il est préférable de passer à l'action. Vous ne pouvez pas nuire. Si la personne est morte, que peut-il lui arriver de pire? Dans les autres cas, vous n'endommagerez pas un cœur qui bat avec votre massage. Marche à suivre. Que faire exactement? La première étape est facile. Appelez le 911. Les choses se corsent par la suite? Pas nécessairement. La RCR classique inclut une alternance de compression et de ventilation qui peut être intimidante si vous n'avez pas suivi de cours spécifiques. Cependant, il est tout à fait acceptable de faire une RCR simplifiée, que l'American Heart Association appelle la RCR à main seule. Le plus rapidement possible, vous installez vos deux mains, une par-dessus l'autre, au milieu du thorax, et vous faites des compressions. Deux consignes. Poussez vite et poussez fort. C'est aussi simple que ça. Certains seront peut-être surpris d'apprendre qu'il n'est pas nécessaire de faire le bouche à bouche, mais plus la séquence est simple, plus vous oserez faire sortir ce super-héros intérieur. Plusieurs personnes sérieuses suggèrent de fredonner la chanson « Staying Alive » pour garder le rythme recommandé de 100 à 120 compressions par minute. Si vous êtes un expert des Bee Gees, votre massage sera exactement à 104 compressions par minute. Un autre élément qui a peut-être changé depuis votre dernier cours de secourisme est la présence grandissante des défibrillateurs externes automatisés, DEA. Ce sont de petites machines qui analysent le rythme cardiaque et déchargent une pulsion électrique au besoin. Dans le cas d'une arythmie cardiaque, ce choc est crucial. Il peut ramener le cœur à un rythme normal. En attendant que les téléphones intelligents aient une application de défibrillation, les DEA, les défibrillateurs externes automatisés, se trouvent dans plusieurs endroits publics, aéroports, écoles, centres commerciaux, etc. Si vous avez de l'assistance, demandez-le au moment où vous commencez votre réanimation. Aussitôt qu'on vous l'amène, ouvrez-le et suivez les instructions. Il s'agit simplement de placer de gros autocollants, entre parenthèses les électrodes, sur la personne et de peser sur le bouton de mise en marche. La machine vous parlera d'une voix rassurante pour vous guider dans les prochaines étapes de la réanimation. Plus facile que de faire du craft dinner. En attendant de sauver une personne d'un arrêt cardiaque, vous pouvez consulter des sites comme celui de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada pour obtenir plus d'informations. Encore mieux, vous pouvez vous inscrire à un cours de réanimation. Vous peaufinerez votre technique et en apprendrez sur des situations spécifiques, par exemple la réanimation chez les enfants. L'étape la plus importante pour votre propre survie sera toutefois de convaincre vos proches de s'intéresser à la réanimation. Alors, la docteure répond, c'était Guenièvre Thérien, médecin omnipraticienne, collaboration spéciale dans la presse d'aujourd'hui, section pause. Non à la pâte à dents, à la brassière et à bon matin. Ayant travaillé à la francisation des entreprises durant une douzaine d'années avec des centaines de conseillers en francisation et de linguistes, à l'amélioration de la langue parlée et écrite au travail, aussi bien dans les usines que dans les plus grands commerces, ainsi qu'à la qualité de l'étiquetage et de l'affichage commercial, je n'accepte pas que l'OQ LF, l'Office québécois de la langue française, par le biais d'une nouvelle politique de l'emprunt linguistique, fasse fi des efforts et des sommes considérables consacrées par ces entreprises à la francisation des emballages, de la publicité et des documents d'information sur leurs produits pour se conformer aux recommandations de l'Office de la langue française de l'époque, c'était le nom de l'OQLF, jusqu'en 2002. Ce recul enlève toute crédibilité et toute efficacité aux efforts antérieurs de l'Office. Les consommateurs achètent aujourd'hui du dentifrice, non de la pâte à dents, des soutiens-gorge, non des brassières, des plateaux, non des cabarets, et fréquentent un comptoir à salade et non un bar à salade. Ces calques de l'anglais que nous avions fini par oublier apparaîtrait de nouveau dans l'espace public par l'action de l'OQLF, qui a pour mission de guider l'usage du français parlé et écrit au Québec. Plutôt que de dépenser des sommes folles à faire des suggestions permissives plus farfelues les unes que les autres, l'OQLF devrait consacrer ses énergies à promouvoir des cours de francisation pour intégrer les immigrants à la société et au monde du travail, surtout dans les entreprises qui accueillent des travailleurs immigrants afin de faire du français la langue de travail et de l'espace public. J'aurais bien préféré que l'OQLF affiche publiquement son désaccord avec ce « bonjour aïe » qu'on nous sert de plus en plus dans les commerces, ainsi que ce « bon matin » calque de l'anglais « good morning » au lieu de « bonjour » utilisé dans toute la francophonie, sans compter ce « pas de problème » calque de l'anglais « no problem » plutôt que « pas de souci ». C'est signé Solange Chalvin, ex-journaliste du Devoir et ex-directrice de l'OQLF, une lettre dans le Devoir d'aujourd'hui, écrite le 29 septembre 2017. Un mariage qui va les transformer. La transaction forcera Jean Coutu et Métro à regarder toutes les synergies. Alors que le mariage annoncé de Métro et de Jean Coutu a été officialisé hier, plusieurs questions d'intérêt ont retenu l'attention de cette transaction de 4,5 milliards de dollars. En voici quelques-unes. C'est un article de Pierre Couture dans le Journal de Québec. Vers de nouveau, publié aussi dans le Journal de Montréal. Vers de nouveaux magasins Métro et Jean Coutu. Le PDG de Métro, Éric R. Laflèche, soutient que les forces complémentaires des deux entreprises offriront 630 épiceries et 677 pharmacies. Il ne fait pas de doute que les pharmacies Jean Coutu offriront davantage de produits alimentaires alors que les épiceries Métro verront les produits de pharmacie augmenter sur ses tablettes. Mais de là à voir les pharmacies Jean Coutu devenir des petits Métro, Éric R. Laflèche soutient que ce ne sera pas le cas. Les bannières demeureront en place. Des mises à pied à prévoir? La direction de Métro ne cache pas que des mises à pied auront lieu. L'entreprise cherchera des synergies annuelles dès le printemps prochain d'au moins 75 millions sur 3 ans. Hier, on a fait état de quelques centaines de mises à pied possibles dans l'ensemble de l'entreprise qui comptera dorénavant plus de 85 000 employés. Que feront les Coutu? Le président et chef de la direction de Jean Coutu, François Coutu, reste. Il dirigera dorénavant les activités de la nouvelle division pharmaceutique de Métro. Cette entité regroupera les pharmacies Brunet, les pharmacies Jean Coutu et le centre de distribution de Jean Coutu à Varennes. Entrevue de Pierre Couture en collaboration avec Francis Alain. Et il y a d'autres questions. Des centres de distribution en péril, Métro conservera le méga-centre de distribution de Jean Coutu à Varennes, construit récemment au coût de 130 millions. Des génériques moins chers, cette acquisition permet à Métro de mettre la main sur la populaire marque de médicaments génériques Pro-Doc de Jean Coutu. Et vers une croissance de Métro, le PDG de Métro est d'avis que cette transaction permettra à Métro de poursuivre sa croissance au pays. Vous écoutez Les Voix de service quotidien, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Merci d'être à l'écoute de Canal M, de Vues et Voix. Je vous souhaite un agréable mardi et je vous invite à rester là pour les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux.
Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit 3e étage de rue Saint-Denis, est partie en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pote, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps.
En mobylette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société. Née par hasard dans le mauvais pays, au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle ne sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle sait encore moins. En attendant, il y a eu 2 mois d'ouvrage, 1 mois d'études, puis l'assurance chômage.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps.
Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis et sa 5e saison, et d'oublier les mots de Let It Be qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Let It Be, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle le sait plus par cœur. Et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le
Le regretté Sylvain Lelièvre avec sa très bonne pièce Marie-Hélène sur Canal M.
Actualité internationale, le gouvernement du Canada a finalement commenté les violences espagnoles de dimanche en Catalogne. Après des jours d'esquive au motif qu'il s'agissait d'une affaire interne, Ottawa s'est dit très préoccupé par la situation. Le Canada apprécie sa relation avec l'Espagne, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Alors que la question de la Catalogne est une affaire interne pour l'Espagne, nous sommes très préoccupés par la violence sur le terrain. Nous espérons qu'une solution sera trouvée à travers le dialogue pacifique et dans le contexte de la Constitution. Le Bloc québécois trouve cette réponse inadéquate car elle subordonne la légitimité à la légalité, fait valoir le député Luc Thériault. La Constitution espagnole établit l'indivisibilité de l'Espagne. Y faire référence, selon le Bloc, revient à donner raison à Madrid de prendre les moyens pour la faire respecter. Le nouveau chef du NPD, Jagmeet Singh, déplore aussi la timidité d'Ottawa dans le dossier. Un des droits importants pour toute personne est celui à l'autodétermination, a-t-il rappelé. C'est nécessaire que le gouvernement dise quelque chose. Le tueur au couteau de Marseille avait été arrêté puis relâché. L'assaillant qui a tué à l'arme blanche deux jeunes femmes dimanche à Marseille, en France, avant d'être abattu, avait été interpellé pour vol, mais remis en liberté la veille de l'attaque, suscitant un début de polémique et une enquête gouvernementale. L'UNICEF, l'agence de l'ONU spécialisée dans les droits de l'enfant, a lancé lundi un appel aux dons pour trouver 76,1 millions de dollars afin de financer son aide humanitaire d'urgence pour la minorité musulmane Rohingya, réfugiée au Bangladesh, fuyant une opération militaire du Myanmar déclenchée après des attaques de rebelles Rohingya. Plus de 500 000 Rohingya, dont 60 % d'enfants, se sont réfugiés depuis fin août au Bangladesh, selon l'ONU. L'UNICEF estime le nombre total des enfants ayant besoin d'aide à 720 000. D'après l'ONU, plus de 14 100 d'entre eux souffrent de malnutrition et sont en danger de mort dans les camps misérables du Bangladesh. Ils sont entièrement dépendants d'ONG pour leur survie alimentaire. D'après les agences humanitaires, 145 000 enfants de moins de 5 ans ont besoin d'une intervention d'urgence. Environ 10 000 personnes d'un quartier du sud-ouest de Berlin ont été évacuées lundi, le temps que les services de déminage désamorcent une bombe de 250 kg datant de la Deuxième Guerre mondiale, a-t-on appris auprès de la police. La circulation a dû être interrompue sur plusieurs lignes de métro et de trains de banlieue. Les forces de l'ordre ont également fermé plusieurs rues et même une partie de l'autoroute jouxtant le périmètre de sécurité. Ce type d'évacuation intervient régulièrement en Allemagne. Début septembre, les services de déminage de Francfort avaient désamorcé une énorme bombe britannique. Gros plan sur les blessés par les forces de l'ordre, d'une grand-mère au poignet cassé à un indépendantiste frappé au front à la matraque, l'AFP, l'agence France-Presse, a recueilli des témoignages de personnes blessées dimanche en Catalogne par les forces de l'ordre déployées pour empêcher le référendum d'autodétermination interdit par Madrid. Des images de violences policières ont fait le tour du monde, suscitant une vive polémique sur l'usage disproportionné de la force par Madrid et l'humiliation des lecteurs, parfois âgés, brutalisés. Quatre restaient lundi à l'hôpital, dont deux dans un état grave mais stable. Un homme d'environ 70 ans ayant fait un infarctus à Lérida et un autre ayant reçu une balle en caoutchouc dans l'œil à Barcelone, selon les services d'urgence médicale. La région, dirigée par des séparatistes résolus à faire sécession, a élevé lundi à 893 le nombre de personnes ayant demandé une assistance médicale, un bilan immédiatement contesté par le Parti populaire au pouvoir en Espagne qui l'accuse de manipuler les chiffres pour victimiser l'indépendantisme. Stockholm, le prix Nobel de médecine a été attribué hier à trois chercheurs américains, Jeffrey C. Hall, Michael Ross Bash et Michael W. Young, qui ont démonté les mécanismes complexes de l'horloge biologique. Ils sont récompensés pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien, lequel s'étend sur 24 heures et permet aux êtres vivants de s'adapter aux différents moments de la journée et de la nuit, a annoncé l'Assemblée Nobel. Le rythme circadien permet notamment de régler les besoins en sommeil et nourriture et d'adapter la pression artérielle et la température corporelle. Leur découverte explique comment les plantes, les animaux et les êtres humains adaptent leur rythme biologique pour qu'ils se synchronisent avec les révolutions de la Terre, a précisé le jury. Thank you. Actualité artistique, Tom Petty, le rocker de l'Amérique profonde, est décédé lundi soir à 66 ans d'une crise cardiaque, a annoncé sa famille. Nous sommes bouleversés d'annoncer la mort prématurée de notre père, mari, frère, leader et ami Tom Petty, a déclaré la famille du chanteur-guitariste. Connu pour Learning to Fly, American Girl, I Want Back Down ou Free Fallen, il venait d'achever une semaine auparavant une tournée célébrant les 40 ans de son groupe, les Heartbreakers. Victime d'une crise cardiaque lundi matin dans sa résidence de Malibu, en Californie, il a été transporté dans un hôpital de Los Angeles, mais n'a pas pu être réanimé. Il est mort en paix, entouré de sa famille, des membres de son groupe et de ses amis, selon sa famille. La dernière de Claude Chamberlain, mais pas tout à fait. Le cofondateur du FNC travaillera à ressusciter le cinéma parallèle. Montréal, ouf, c'est par cette onomatopée que Claude Chamberlain décrit ses liens avec la ville qu'il a vu naître il y a presque 70 ans. Le cofondateur et co-directeur de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma, FNC, se terre désormais près du lac Brome, sous le soleil, avec les canards et communication déficiente à l'appui, à des lunes de distance de la Maine qu'il a longtemps animée. Depuis 6 ans, je ne suis jamais à Montréal. J'y vais pour voir Philippe Gageon, co-directeur de la programmation du FNC, et pour voir ma fille, dit celui qui annonçait il y a une semaine retirer sa griffe du Festival autonome. Le 46e FNC qui démarre ce mercredi avec le très attendu Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve et qui roulera jusqu'au 15 octobre est le dernier auquel il aura joint sa voix lors de la sélection des films. Pas question cependant de retraite, contrairement à ce que certains auraient cru. Je ne me retire pas pantoute, je ne ferai plus partie de la direction, mais je serai programmateur des présentations spéciales. L'homme ne dit pas son âge, mais affirme compter 46 ans de festival, 50 ans de parallèle, la salle qu'il gérait sur le boulevard Saint-Laurent. Un site en ligne bien connu pour être la référence du cinéma mondial date de son année de naissance, 1949. Le corps est peut-être dans les cantons de l'Est, mais la tête toujours au cinéma. Et l'envie de continuer à se battre pour des films d'auteur pousse Claude Chamberlain vers des projets de la veine du FNC. Ce sont, avance-t-il, des affaires pas faciles qui versent autant du côté découverte que du côté discussion sur le 7e art. On comprend que l'expérience d'Excentrice et l'association avec le mécène Daniel Langlois l'ont laissé amer. Le parallèle comme le FNC ont fini par en souffrir. Never again, les millionnaires lâchent-ils. Claude Chamberlain promet qu'il rendra public le projet du nouveau parallèle après le 46e FNC. Ses 5 coups de cœur au FNC de cette année, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, un chef-d'œuvre émouvant que j'ai vu 3 fois, dit Claude Chamberlain. Les Affamés de Robin Aubert, un film de zombies avec Marc-André Grondin. La part du diable, un collage lyrique d'images et de sons du passé. Le Vénérable bouddhiste, un documentaire sur les racines du mal. Et Heaven, qui raconte l'histoire d'un homme qui se déguise pour passer la frontière. Au lendemain de l'attentat survenu à Las Vegas, l'organisation du Cirque du Soleil a décidé d'annuler toutes les représentations de ses spectacles prévus lundi soir sur la Strip. Ainsi, ce sont au total 12 représentations de K, Mystère, Zoanity, Michael Jackson, One, The Beatles, Love et Blue Man Group qui ont été annulées. Chacun avait 2 représentations de prévues. Il n'y avait pas de représentation à l'horaire ce soir, hier, pour O ou Mind Freak Live, a indiqué au journal Marie-Hélène Lagacé, porte-parole du Cirque du Soleil. Pour l'instant, seules les représentations d'hier soir ont été annulées. L'organisation n'a pas pris de décision pour les prochains jours. Durant plusieurs heures hier, l'équipe du cirque s'affairait à localiser chacun de ses 1500 employés travaillant à Las Vegas. En soirée, Marie-Hélène Lagacé a confirmé au journal que tous les employés du cirque sont en sécurité et qu'aucun ne fait partie des victimes de la fusillade. Un pilier de la voix ne se retournera plus. Après 5 saisons, Marc Dupré a choisi de céder sa place de coach pour la 6e saison de l'émission. Un vent de nouveauté soufflera donc l'hiver prochain lorsque Lara Fabian, Garou et Alex Nevsky se joindront à Éric Lapointe. Le roman « La femme qui fuit » connaît une étonnante carrière en France. 63 000 exemplaires du récit d'Anaïs Barbeau-Lavalette se sont vendus là-bas depuis sa sortie au livre de poche en mars. Il a même été réimprimé 10 fois en 8 mois, annoncé hier sa maison d'édition québécoise Marchand de Feuilles, qui affirme que « La femme qui fuit » a été le livre québécois le plus lu en France cette année. Bien sûr, on est loin des tirages d'un auteur populaire comme Guillaume Musso, qui se chiffre en millions. Mais à titre de comparaison, les 80 000 exemplaires vendus en un an des 2 premiers tomes du journal d'Aurélie Laflamme d'India Desjardins, lors de leur sortie en France au début de 2010, étaient alors considérés comme un grand succès. La tournée des journaux régionaux, le nouveau concept de la bibliothèque Gabriel Roy dévoilé, c'est dans le soleil sous la plume de Jean-François Néron. La transparence est la grande gagnante du concours d'architecture de la bibliothèque Gabriel Roy. Le projet de 40 millions de dollars permettra au bâtiment de passer de l'opacité à l'ouverture sur son quartier. La Ville de Québec a dévoilé lundi le lauréat du concours lancé en mars, le consortium formé par Saussier, Perrotte de Montréal et GLCRM, qui a des bureaux à Québec, a séduit le jury avec un concept basé sur la transparence. On veut intégrer la bibliothèque dans un quartier qui a changé beaucoup, soutient l'architecte Gilles Saussier, associé principal chez Saussier et Perrotte. Nous voulons créer un monument, un momentum en transformant le bâtiment de manière qu'il devienne transparent, plus attirant, quelque chose qui rayonne dans son environnement et diffuse autant la culture que la communication entre les personnes, explique-t-il encore. Ainsi, l'omniprésence du verre permettra aux passants de voir l'animation à l'intérieur, tout comme de faire entrer la ville dans la bibliothèque, précise M. Saussier, promettant qu'il n'y aura plus aucune façade opaque, héritage du mouvement brutalisme qui a pris fin au moment de la construction de l'actuelle bibliothèque en 1983. On amène la lumière très profondément à l'intérieur. Dans le droit, Daniel Leblanc, l'enseigne Ottawa dans un nouvel espace public. L'enseigne géante Ottawa refera son apparition dans le marché bail d'ici la fin du mois d'octobre. Et cette fois, les grosses lettres rouges sont là pour y rester. C'est dans un tout nouvel espace public qui sera aménagé dans les prochaines semaines, la place de la rue York, que les résidents et touristes pourront se photographier aux côtés de cette affiche. Celle-ci était l'une des pièces maîtresses du village de l'Inspiration qui a pris place dans le marché bail durant tout l'été à l'occasion des festivités du 150e anniversaire de la Confédération. L'espace public, sise à l'angle des rues Sussex et York, comprendra entre autres une aire asphaltée de 450 mètres carrés, des installations artistiques temporaires, des sièges amovibles et une séparation d'avec la chaussée composée de bordures de béton et de jardinières. Deux nouveaux passages piétonniers seront également aménagés sur la rue York. La construction de cette place publique entraînera le retrait de 20 des 94 places de stationnement municipal qui se trouvent à cet endroit. L'investissement de la ville d'Ottawa dans ce projet est chiffré à 120 000 $. Fusillade à Las Vegas, deux trifluviens au cœur de l'horaire, de l'horreur, dis-je bien, Brigitte Trahan et Nicolas Ducharme dans le Nouvelliste. Avec la présence du spectacle de Céline Dion à Las Vegas, plusieurs Québécois ont vécu la tragédie qui s'est déroulée dans la métropole du Nevada de près. C'est le cas des trifluviens Guillaume Marchand et Philippe Beaudoin. Le rêve de M. Marchand d'être devenu claviériste pour la diva s'est quelque peu assombri par cette fusillade survenue quelques minutes après qu'il soit rentré à son hôtel. On soupait sur une terrasse pas loin de là, raconte M. Marchand, à peine 15 minutes avant que je sois de retour dans ma chambre d'hôtel. C'est alors qu'il aperçoit du haut de son 26e étage une grande quantité de véhicules de police bloqués l'autoroute et la strip, partie sud du Las Vegas Boulevard, où se trouvent la plupart des hôtels, casinos et centres de villégiature. Voir quelques véhicules de police, ça arrive régulièrement à Vegas, dit-il, mais visiblement quelque chose ne tournait pas rond. C'est en redescendant dans l'entrée de son hôtel que le musicien s'est fait dire qu'il ne fallait plus sortir. Il a pu prendre conscience de toute l'horreur de ce branle-bas de combat en ouvrant ensuite la télé à CNN. Les appels téléphoniques et les textos ont immédiatement commencé à circuler dans l'équipe des musiciens de Céline. Fort heureusement, tout le monde allait bien, raconte-t-il. Une dernière séance pour Jean Tremblay, Mélissa Gagnon dans le quotidien. La dernière assemblée publique du conseil municipal de Saguenay s'est déroulée sous le signe de l'émotion lundi à la baie, alors que le maire sortant Jean Tremblay a livré un vibrant hommage à celui qu'il considère comme l'architecte de la ville fusionnée, Ghislain Harvey. Il a aussi chanté les louanges de la Société de développement économique Promotion Saguenay. Au terme de la séance, qui s'est déroulée relativement rapidement et sans confrontation, le maire Tremblay s'est dirigé au milieu de la salle et a pris la parole au micro. Devant l'ensemble des conseillers municipaux, sauf pour l'abbé riverain Luc Boivin, absent pour des raisons professionnelles, le maire est revenu sur ses 20 années de règne. Il s'est présenté au lutrin, la voix vacillante, mais s'est rapidement ressaisi. Ma plus grande réalisation, c'est Promotion Saguenay. Promotion Saguenay, c'est 2,8% des budgets de la ville. Ce n'est pas énorme dans les budgets, mais c'est très important. La clé pour arriver aussi loin, c'était de mettre des gens d'affaires. En mettant 19 des personnes les plus en vue, on a dépolitisé Promotion Saguenay, a déclaré Jean Tremblay, qui a profité de l'occasion pour remercier les conseillers qui lui ont été fidèles et qui l'ont aidé à réaliser de grands projets. Le maire a réitéré qu'il ne pourrait aujourd'hui revenir sur ses principales réalisations, les bateaux de croisière et la mise en service des centrales hydroélectriques de Pont-Arnaud et Chute-Garneau n'eût été l'appui indéfectible d'un conseil uni. Pour les bateaux de croisière, quand on n'a pas eu l'autorisation du gouvernement et qu'on a donné le go pareil, je dois vous dire que j'ai mal dormi. Quand on a commandé les turbines des centrales parce qu'on avait une contrainte de temps et qu'on devait commander, j'étais nerveux, a-t-il soutenu. Le maire Tremblay, qui a présidé 397 séances du Conseil de ville en carrière, n'a pas tari d'éloges à l'égard de son ami et plus proche allié Ghislain Harvey. Il y a une personne qui a bâti la ville, et c'est Ghislain Harvey. Chaque projet qu'on faisait, c'était avec sagesse et son énergie. Ghislain et moi, on s'appelait 4 à 5 fois par jour. Son jugement était toujours bon, a poursuivi le premier magistrat. Le notaire de profession a rappelé qu'avant son élection, l'univers de la politique lui était complètement étranger. Il a donc remercié ceux qui sont venus le chercher au début, Ghislain Harvey, Claude Gaudreau et Yvon Bouchard. Enfin, Jean Tremblay s'est félicité d'avoir maintenu un gel de taxes pendant 8 ans, alors qu'au moment de son entrée en poste, le taux de taxation de Saguenay était l'un des plus hauts. « C'est ce dont je suis le plus fier », a-t-il commenté. En guise de conclusion, celui qui a fondé le Parti des citoyens de Saguenay, PCS, a fait part de son souhait le plus cher, pouvoir regarder la ville avec un certain recul et détenir l'assurance qu'il a contribué à sa vitalité. Les gens me demandent « qu'est-ce que vous aimeriez pour que les gens se souviennent de vous ?» Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se souviennent de vous plutôt ? C'est sûr que si on veut mettre une rue à mon nom un jour, je vais dire oui. Mais je vous le dis bien franchement, ce n'est pas ça que je veux. C'est moi qui veux regarder la ville dans 10 ans et dire « regarde comme elle est belle, comme les gens sont heureux, comme elle est prospère » et savoir que j'y ai contribué à signifier Jean Tremblay, qui fonde beaucoup d'espoir sur des projets comme Métaux Black Rock, GNL Québec et Ariane Phosphate pour assurer l'essor économique de la capitale régionale. Au terme de son discours, le maire sortant a reçu une ovation debout et a fait le tour de la table pour serrer la pince à ses collègues élus. Certains d'entre eux se sont montrés très émus. Ce fut notamment le cas de la doyenne du conseil municipal, la jonquéroise Sylvie Gaudreau, qui était en larmes à la fin de la rencontre. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service quotidien. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée et qui vous invite, si vous nous écoutez en direct, à rester là pour les paractualités. Sinon, vous pouvez vous reprendre en allant sur notre site Internet. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. À bientôt!